Surpris par la nuit.
Senza una voce, senza un messaggio. Alla fine mi è sembrato di capire questo, che chi fuggiva a piedi, inseguito, era Pierpaolo Pasolini, il poeta, e colui o coloro, o chi fosse, che correvano dietro non avevano un volto. Non sapevano, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini.
Pier Paolo Pasolinis, Le procès interdit. Une émission de Yann Ciré, réalisée par Angélique Thibault. Première partie. Hostie, le corps du massacre, ordure et blasphème.
Poteva essere qualcuno che lui conosceva, poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi coloro che fanno queste cose. Ora, coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Paolo Pasolini abbiamo prima di tutto perduto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall'animo portato ai migliori sentimenti. Un uomo che odiava la violenza. Sì, ci sono molti buoni, ma un buono come Pasolini sarà difficile trovarlo. Sarà difficile che ritorni sulla terra molto presto. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto nell'ultimo secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra.
Esercer toujours des cas limites. Parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes.
Sordide rituel prostitutionnel, sadomasochiste, complot politique, liant la mafia et la corruption du terrorisme d'État dans les années de plomb italiennes, la mort de Pasolini reste un mystère, au sens théologique, judiciaire, comme criminel. De ce corps démembré, comme celui de Dionysos ou d'Osiris, ou celui du Christ, retrouvé sanglant sur la plage d'Ostie, il reste une question capitale. Quelle civilisation se fonde sur ce sacrifice venu des tréfonds de la société italienne et de la Nouvelle Europe? Un lynchage de masse, comme le dit Bernardo Bertolucci. Pétrole, dernier livre posthume, enquête et procès infini à travers les entrailles de la société, l'a-t-il mené à la mort? Pino Pelozzi, le jeune assassin de 1975, dit la Rana, la grenouille, a-t-il été ce ragazzi Oedipe qui aura tué son père incestueux? En 2005, l'adolescent au visage d'ange pasolinien revient sur ses aveux. Il n'est pas le responsable direct de la tuerie. D'autres ont agi. Un nouveau procès doit s'ouvrir. Il s'enfonce depuis dans l'obscurité. Sur la place Campo dei Fiori, là où Giordano Bruno fut brûlé, Moravia, l'ami intime et civil, fait une oraison funèbre sans précédent au cinéaste, dont les procès perpétuels ont marqué la vie et l'œuvre. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, c'est le plus grand poète depuis Dante qui a été exécuté entre la nuit des morts et celle des saints.
Le problème de cette mort et du procès qui s'en est suivi, c'est que cette mort était prévisible, bien entendu, et...
René de Cecatti.
C'était comme si c'était un achèvement inespéré de la vie de Pasolini. Alors, le procès s'est transformé en procès de Pasolini, très rapidement. Ce n'était plus le procès de Pelosi, mais c'était le procès de toute la vie, de toutes les positions de Pasolini. Alors, toute cette histoire est intéressante pour l'histoire de la justice italienne. C'est-à-dire de voir comment la justice italienne a fonctionné entre 1975 et maintenant, donc 2008 ou 2005, quand on a demandé la révision du procès. Ce ne sont plus les mêmes personnes, bien entendu. En 1975, c'était encore des fascistes. La justice italienne a été extrêmement précieuse, justement après la mort de Pasolini, et dans les décennies qui ont suivi, pour mettre un peu d'ordre dans un chaos total. Et comme de même, on peut espérer que Berlusconi sera finalement soumis à un procès.
Consternation à Rome dans les milieux du cinéma italien. Le célèbre metteur en scène Paolo Pasolini, 53 ans, a été assassiné près de la plage d'Ostie, à quelques kilomètres à peine de Rome. Un crime crapuleux. L'assassin, 17 ans à peine, vient d'ailleurs de passer aux aveux complets. Rome, Jacques Hébert.
20h hier soir, Pier Paolo Pasolini dîne dans la proche banlieue de Rome avec Ninetto Davoli, un acteur assez peu connu mais qui a tourné dans de nombreux films de Pasolini. 22h, les deux hommes se quittent. Au volant de sa voiture, une Alfa Romeo, Pasolini part pour une destination inconnue. 1h du matin, au cours d'un contrôle de routine, la police arrête, non loin de l'aéroport de Rome, un jeune homme de 17 ans. Il est seul à bord de l'Alfa Romeo de Pasolini. On pense tout de suite à un vol de voiture. C'est d'ailleurs un repris de justice. Et puis ce matin, 6h30, un couple découvre le corps de Pasolini, horriblement mutilé, sur un terrain vague d'un bidonville d'Ostie, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Rome. Le metteur en scène a, semble-t-il, été tué à l'aide d'un pieu en bois et une voiture lui est passée à plusieurs reprises sur le corps. Selon les médecins, l'assassinat remonterait entre 22h30 et minuit.
Quelques jours après son assassinat, Oriana Fallaci fut la première à avancer cette hypothèse.
Walter Citti, écrivain et éditeur, des œuvres complètes de Pasolini.
Oui, mais il y avait aussi des preuves. On a retrouvé dans la voiture des choses qui n'appartenaient probablement pas à Pelosi. Il y avait une empreinte sur le toit qui n'appartenait pas à Pelosi. Donc il me semblait assez évident que Pelosi n'avait pas agi seul et qu'il fallait approfondir l'enquête, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une grande partie des preuves ont disparu, que trop de temps s'est écoulé, donc il sera très difficile de trouver la vérité.
Et il est également très difficile de comprendre, comme on le verra avec ce témoin, où finit la vérité et où commence le mensonge.
Certes, on dispose seulement de la parole de Pelosi. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'un groupe de gens, des habitués des environs de la Piazza della Repubblica, des prostituées qui, lassées de l'attitude de Pasolini, qui parlaient trop directement avec les jeunes gens, et dont la sexualité s'écartait un peu des normes contractuelles en vigueur dans ce lieu, avaient voulu lui donner une leçon. Je ne pense pas qu'ils ont voulu aller jusqu'à l'assassiner.
Non credo, ma che l'idea fosse quella di spingersi fino all'omicidio. Probabilmente, diciamo, l'omicidio è accaduto.
Il est probable que le meurtre est arrivé par malheur, la voiture ayant roulé sur lui et l'ayant tué. Mais il est évident que si l'on s'organise pour donner une leçon à quelqu'un, on n'envoie pas un jeune homme de 17 ans tout seul.
Pasolini fut frappé à coups de bâton. Il tenta de s'enfuir et la voiture lui passa dessus, ce qui causa sa mort. Roberta Torre, pour chercher la vérité et tenter de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, s'est rendue au musée de criminologie à Rome et a retrouvé les bâtons, la chemise, les chaussures. Il y a deux boîtes différentes contenant les affaires de Pasolini et de Pelosi. Écoutons son interview.
Pino, Pelosi.
J'étais en voiture et à un certain moment, j'ai vu Pasolini qui franchissait la grille. Il hurlait : qu'est-ce que vous voulez ? Me voler ? Laissez-moi. Prenez l'argent sous le tapis. Ils l'ont traîné en le rouant de coups. Je suis descendu de voiture et j'ai reçu un coup sur le nez. Ils m'ont dit de me mêler de mes affaires et de partir. Des coups de poing, des coups sur la tête, je ne sais pas s'ils avaient des bâtons. Lui est tombé, puis il s'est relevé et il a commencé à courir. À un moment, il a enlevé sa chemise. Je ne sais pas exactement quand. Est-ce que c'était quand il s'est relevé, qu'ils l'ont détaché ? Il courait, courait. Peut-être qu'il s'est servi de sa chemise pour essuyer le sang. Ils étaient deux ou trois, plus deux autres à côté de la voiture. C'est là qu'ils l'ont frappé sauvagement. J'ai eu l'impression que ça durait un siècle, et puis je l'ai vu tomber.
Ça a duré combien de temps?
20, 25 minutes.
Qu'est-ce qu'il disait?
Il hurlait, au secours, aidez-moi, mon Dieu. Et puis il est tombé.
Qui lui est passé dessus avec la voiture?
Eux, sans aucun doute, pas moi.
Qui a pris la voiture pour lui rouler dessus?
Je ne sais pas. Ils entrent dans la voiture, mettent le contact, font marche arrière. Ils regardent impassibles.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Rien.
Quel bruit entends-tu?
Non potrei definire quel rumore. Un rumore strano.
Impossible à définir, un bruit étrange.
Pasolini a été une victime incessante de procès de tous ordres. Pour ce qui est, pour nous en tenir au procès de Pelosi, le problème essentiel, c'est que les pièces à conviction ont été détruites. Parfois délibérément, parfois par simple négligence. Même, on a laissé la voiture dehors, sous la pluie, autrement dit, on ne pouvait même plus avoir les empreintes digitales sur la carrosserie. Donc à partir de là, ça devenait très compliqué de faire un procès. Le problème aussi tient à la nature de Pino Pelosi, qui est un manipulateur.
En ce qui concerne Pelosi, la première chose qui me vient à l'esprit est qu'il se livre à un bricolage. Je veux dire qu'il assemble certaines choses qui sonnent vraies, tout en inventant, en racontant une histoire plus théâtrale, mélodramatique, comme la fin, quand il parle des autres qui regardent. Comme s'il mélangeait des choses qui sonnent vraies avec d'autres choses de sa fabrication. Autrement dit, il avait besoin de se créer une vérité de rechange qui le réconcilie avec ce qui s'est produit. En admettant certaines parties de l'histoire et en excluant d'autres qui pourraient l'impliquer davantage. Son problème n'est pas judiciaire, c'est un problème de paix intérieure.
Moi, là-dessus, je suis extrêmement partagé parce que j'ai fini par être convaincu que, en effet, Pelosi n'avait pas été seul, qu'il était accompagné. Je pense que c'est absolument indubitable. Là où le doute continue à demeurer, c'est le lien entre d'éventuels commanditaires et lui et ses complices. Je pense que eux-mêmes, s'ils ont été manipulés, ne le savaient pas. Tout le problème vient de là. C'est-à-dire que ça a été des tueurs à leur insu. Ils ne savaient même pas pour qui ils tuaient et à peine qui ils tuaient. Je pense que c'est ça la grande difficulté. Maintenant, des pouvoirs habiles peuvent très bien utiliser le flou qu'il y a dans la pègre, dans cette petite pègre. Vous savez, il y a ce film formidable, Gomorra, sur la mafia. On voit très bien comment ça fonctionne chez des gens extrêmement simples, comment ils sont manipulés. Ils ne savent même plus pourquoi ils tuent et qui ils tuent. Et c'est probablement comme ça que ça a fonctionné pour Pasolini. Donc, comment faire un procès dans ces conditions? Parce que les commanditaires resteront complètement cachés. C'est absolument impossible qu'ils soient révélés. Alors, comment installer ça dans un dispositif de Pasolini? C'était certainement pas un dispositif volontaire de sa part. Ça tient à la structure... social, il faudrait un Michel Foucault pour analyser ça. Parce qu'il faudrait un regard extrêmement précis sur les institutions, sur les comportements individuels. Quelle est la place sociale exacte qu'a un prostitué occasionnel dans la structure sociale italienne en 1975, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant.
C'est avec ce numéro de scellé que l'assassinat de Pasolini a été archivé.
Al Museo Criminologico di Roma ci sono ancora tutti gli oggetti che hanno.
Ici, au Musée Criminologique de Rome, se trouvent encore tous les objets qui ont constitué la scène du crime.
Questo bastone che fu spaccato sul cranio di Pasolini.
Ces bâtons qui se sont écrasés sur le crâne de Pasolini, et qui se sont cassés en deux, sur son corps, sur sa tête. Ces deux objets, qui, selon le rapport du professeur Durant et de l'Université de Rome, pourraient encore démontrer aujourd'hui, si quelqu'un voulait rouvrir l'enquête, que l'assassin présumé, condamné par le tribunal des mineurs, ne pouvait être seul sur la scène du crime. Voici ces deux objets, utilisés à des moments différents, et qui constituent un indice. Voici un autre indice. Ce pull vert, retrouvé sur la voiture de Pasolini, et qui n'appartient ni à Pasolini ni à Pelozzi. Et on n'a jamais su qui l'avait laissé sur la voiture de Pasolini. Voici la chemise de Pasolini, que je montre avec émotion. On y voit encore les taches de sang du poète. Il l'avait enlevé pour se bander la tête, qui perdait abondamment du sang. Pourtant, quand Pelozzi a été arrêté par la police, il avait juste deux petites taches de sang, l'une sur sa chemise et l'autre sur son pantalon. C'est très étrange. Selon le rapport du professeur Durante, Pelozzi avait seulement assisté au meurtre. Et c'est quelqu'un d'autre qui s'est attaché du sang de Pasolini. Quelqu'un qu'on n'a pas identifié ni arrêté. La justice n'est pas parvenue à établir la vérité sur la mort de Pasolini. Quelqu'un devrait rouvrir l'enquête. Regardez, ce sont les lunettes du poète, du cinéaste. Nous avons vu ces lunettes dans de si nombreuses scènes quand il tournait ses films, l'Évangile selon saint Matthieu. Des oiseaux petits et gros, Médée. Remettons tous ces objets dans la boîte Pasolini. Ses livres, ses lunettes, les textes de jeunesse de Marx, qu'il lisait à ce moment-là, ses photos, et enfin cette carte, la carte de presse de Pier Paolo Pasolini. Ses articles, parus dans le Corriere della Sera, où il a écrit de nombreuses vérités qui, peut-être, lui ont coûté la vie. Sergueï Parajanov. Le poète Saïatnova, dans mon film, lorsqu'il va mourir, ôte ses vêtements et les jette par-dessus son corps, sa tête, il les retire de ses bras. Cette scène est l'imitation d'un film de Pasolini. Je ne veux pas le cacher, je veux le revendiquer. Maintenant, je ne peux plus aider Pasolini là où il est.
Я снимал картину в условиях жестоких, не имел.
Si quelqu'un dit « Vos films ressemblent à ceux de Pasolini », je me sens plus grand que la vie. Je respire mieux. Pasolini est comme un dieu pour moi. Un dieu de l'esthétique, un maître du style, du pathos, du sentiment d'une époque. Il me surpasse. Regardez Œdipe Roy. Ses acteurs, sa sensibilité du féminin, du masculin, je crois que c'est une œuvre d'un génie absolu. Médée.
Da vita al seme e rinasci con il seme.
En 69, il va tourner Médée. Il est déjà
Jean Duflo
en contact avec la Calache pour le rôle de Médée. Mais il y a surtout le désamour avec son ami de cœur, Ninetto Davoli. Ça a joué. Les deux, d'ailleurs, vont se combiner et à un moment donné, il y a une espèce de révolte de la part de Pasolini qui va très loin puisqu'il écrit l'Obi du sonnet où il finit par lui reprocher d'avoir été ingrat. Mais alors la crise, elle est à la fois sentimentale, elle est l'aboutissement aussi d'une sorte de déception, d'une longue déception qui commence dans les années 60, il ne faut pas se faire d'illusions, qui commence en 62 avec... une vitalité désespérée. Là, déjà, dans les poèmes, on sent que la période mythique de son identification avec le sous-prolétariat, identification révolutionnaire, est en train de se terminer. En 69, c'est déjà l'aboutissement. Je veux dire, il a traversé ces temps de déclin de la gauche et notamment du Parti communiste. C'est très important. Et donc, en 69, il y a cette double crise idéologique. Il dit à un moment donné, l'espoir révolutionnaire s'est transformé en moi en utopie, c'est-à-dire je renvoie au calendrier grec dans un horizon absolument indéfini et indéfinissable l'éventualité d'une rupture avec le système. Et puis surtout, il découvre quelque chose qu'il a viscéralement détesté, c'est-à-dire la société de consommation.
Je trouve que le problème de la mort de Pasolini n'appartient pas à Pasolini, c'est un problème qui appartient à la société italienne de cette époque.
Jean-Paul Manganaro.
Le mort étant mort, il n'a plus rien à faire de tout ce qui va se tramer. Et il reste par contre quelqu'un qui est le véhicule essentiel pour comprendre la problématique italienne de cette époque.
Da cosa è stata caratterizzata in tutta questa mia produzione in maniera assolutamente schematica e semplicistica. È stata caratterizzata prima di tutto da un istintivo e profondo odio.
Pour schématiser, je dirais que tout ce que j'ai fait se caractérise par ma haine profonde contre l'État dans lequel je vis. Je veux dire l'État au double sens de l'état des choses et de l'État au sens plus strictement politique, l'État capitaliste petit bourgeois que je hais depuis toujours.
Naturalement, con l'odio non si fa nulla. Infatti non sono riuscito a scrivere mai una sola parola.
La haine n'est pas très productive et en effet, je n'ai pas réussi à écrire une seule ligne décrivant et dénonçant la typique petite bourgeoisie italienne. C'est pourquoi on ne trouve dans mes romans que des personnages appartenant au peuple.
Il a essayé justement à la fois de dénoncer tous les abus à plusieurs niveaux, d'ailleurs pas seulement politiques mais aussi sur le plan littéraire. Sur d'autres plans divers, de cicatriser l'état d'une société qui arrive à la fin de son existence. Et donc, il y a quelque chose. Ce sont quand même les années de plomb en Italie, où il y a eu des débats qui sont fondamentaux pour l'histoire de l'Europe, en fait. On ne se rend pas compte combien l'Italie, avec 10 ans ou 20 ans d'avance, est parfois... la vérification des choses, mais là où les problèmes commencent à se poser et qu'ils subissent toujours une solution qui n'est jamais historique, en fait. Elle est toujours vouée à l'hégémonie, en fait. C'est peut-être l'histoire, au fond, du Vatican, l'histoire de la mafia, enfin, de toute une série de regroupements divers qui attaquent d'une manière ou d'une autre l'État, qui n'a jamais permis la constitution, enfin, de quelque chose d'un peu plus clair. Mais ça reste donc un problème extrêmement important.
Séquence pour Carlo Ier. Visite au pape Jean XXIII, un jour de 1900, à décrire, etc. Balducci et l'objection de conscience, Don Milani. Mattei l'utilise pour les contacts avec les fascistes, précisément pour son inattaquabilité d'antifasciste et catholique de gauche. Les fascistes siciliens font chanter, pour cette raison, Carlo, quand c'est le moment de tuer Mattei. Et Carlo devient complice, ne fût-ce que par le silence, à propos de la mafia.
c'est non seulement les modalités pasoliniennes qui sont intéressantes, donc des structures de travail différentes, mais aussi cet investissement total dans l'idéologie, dans la politique de ce moment, non pas pour être d'accord, mais justement pour être révolutionnairement en désaccord constant, aussi bien avec les individus, avec les instances. C'est lui qui interprète quand même le mieux et de manière personnelle ce débat incongru qui ne peut exister qu'en Italie entre le catholicisme et le communisme. Enfin, avec à côté de ça un intérêt incroyable pour le passé. Qu'est-ce que c'est le passé ? Le passé, ça peut être tantôt Ezra Pound, un passé poétique.
Il mondo si appartiene a me, a loro o a nessuno.
Pasolini film Ezra Pound, prima lecture des Cantos.
Quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno, quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione, o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, ma che, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza.
Ce che tu aimes vraiment è ton seul héritage vrai.
Dominati.
À qui appartient le monde ? À moi ? À eux ? Ou bien n'est-il à personne ? Tu es un chien battu sous la grêle, une pie gonflée dans un soleil changeant, moitié noire, moitié blanche. Tu ne distingues pas une aile d'une queue. Rabaisse ta vanité. Que mesquines sont tes haines, nourri de fausseté, rabaisse ta vanité.
Et il faut du courage, si vous voulez, dans les années 60, pour interviewer Ezra Pound, qui a à la fois une gloire poétique immense, mais qui a aussi une tare historique, disons, d'avoir adhéré d'une certaine manière au fascisme mussolinien. Donc, ce n'est pas seulement de la provocation, en fait, c'est aussi une étude extrêmement consciente du passé. Et il n'arrête pas de le dire dans ses poésies, je suis un homme du passé, mais justement, l'homme moderne ne peut pas faire à moins de ce passé. Et je trouve qu'effectivement, son dernier travail, les 120 journées de Salò, est quand même une œuvre d'un polémisme très violent contre l'Italie, hein, et non pas seulement contre l'Italie, mais contre toute une culture occidentale qui est capable à ce moment-là de bouffer n'importe quoi, y compris la merde.
Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie.
Salò, ou les 120 journées de Sodome.
À 18h précises, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies, où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire sur un thème chaque fois différent. Les amis pourront interrompre à tout moment et autant de fois qu'ils le voudront ce récit, dont le but est d'exciter l'imagination. Et toute la civeté sera autorisée. Après dîner, ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme orgie.
La morte de Pasolini mi ha sconvolto molto, ecco.
Leonardo Sciascia.
Perché io mi sentivo molto vicino a lui.
La mort de Pasolini m'a beaucoup bouleversé, parce que je me sentais très proche de lui. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais Pasolini possédait un courage, une force de provocation extraordinaire. Après sa mort,
je me suis senti un peu plus seul, plus démuni. J'étais toujours avec lui, même lorsqu'il avait tort.
Tu as eu l'audace de dire que mon membre ne se dresse pas. Aussi suis-je venu te donner, cher Zumurud, la punition que tu mérites.
Aïe! Aïe!
Les mille et une nuits.
Aïe! Dieu t'en nul, tu te puniras à vous ce que tu fais là! Aïe! Nourettine! Nourettine!
Pasolini a vécu une période antérieure à 1972,
René Scherrer,
où date moment où se sont constitués ces mouvements comme le Front homosexuel d'action révolutionnaire en France, a été imité en Italie. C'est de là que date ce qu'on peut appeler l'émancipation, la reconnaissance, la publicité de l'homosexualité en tant que telle. C'est là où il y a eu des études, des travaux qui ont été faits pour la revendiquer, pour se détacher de la pathologie, pour se détacher de la psychanalyse, ce dans quoi Pasolini incontestablement se trouve pris, j'allais dire empêtré.
Vous connaissez parler d'inversion sexuelle, de perversion sexuelle ou non?
Comme vous
connaissez-vous de l'anormalité sexuelle?
Qualche volte sono andato pure io.
Perché tu pensi che uno sia invertito sessualmente?
Può essere di natura.
Come di natura?
È nato, insomma, con per lo slancio di andare con gli altri uomini.
Non c'è una ragione scientifica che...
Comici d'amor, enquête sulla sexualità.
Fatto naturale. Fatto
naturale, un fatto di nascita, naturalmente. Che non è una cosa che si acquisisce attraverso una pratica.
No, ho capito. E voi, che verso le persone che sono così, che sentimenti provate? Lei, per esempio?
Beh, io direi un sentimento di pietà.
E tu?
Io di schietta.
Ma e lei?
Un sentimento, sono condannati propriamente a questa...
Insomma, il signore prima ha detto un senso di compassione, lui di tipo, e lei?
Magari di compassimento.
Gli italiani divisi in opposte fazioni discutono sul sesso in comizi d'amore.
On voit bien qu'il est empêtré justement dans une homosexualité qu'il revendique, mais qui est problématique et qu'il pratique d'une façon, j'allais presque dire classique, traditionnelle, c'est-à-dire en recherchant la multiplicité des partenaires, une homosexualité qui va et vient, qui habite surtout la zone, c'est-à-dire les lieux limitrophes, les mauvais lieux, comme dans Pétrole par exemple, où il y a une grande scène qui se trouve dans un terrain vague. C'est ce genre d'homosexualité, et non pas l'homosexualité que l'on pourrait appeler conformiste, si vous voulez, qui se pratique à l'heure actuelle. Donc c'est ça ce qui fait le caractère très poétique et très extraordinaire, j'allais dire également criminel, dans un sens large, de l'homosexualité.
Stanotte ho perso tutti i soldi, però c'ho sempre un anello da scommettere. Scommetti, se c'hai coraggio, c'hai tutta lingua, c'hai.
Accatone.
Ah, ma allora sei proprio vignolo. Sì, scommetto. Te voglio far morire pure a te.
Laurent Bettini me racontait qu'en fait, il déjeunait, il dînait plutôt le soir avec ses amis. Oui. Sitôt le dîner fini, il prenait sa voiture et il partait draguer avec tous les dangers. Et tout le monde se disait comment il va revenir. Et souvent, il revenait en mauvais état.
Je peux vous dire qu'à un moment donné, donc si vous voulez, moi je l'ai vu la dernière fois quand il est revenu de Suède. C'est-à-dire, je crois, deux ou trois jours avant. Il m'a déposé exactement à l'endroit où je l'avais rencontré. Piazza del Popolo, à l'angle du bar Rosati. Bon. Et Moravia, que je voyais parce qu'on avait l'idée de faire également des entretiens, qu'on a fait d'ailleurs, me disait, mais si vous le voyez, dites-lui d'arrêter de... Il va dans le mur, il est en train de... C'est du suicide. En août, il avait été agressé par des fascistes, mais salement. Menace de mort quotidienne à cause de salauds. Et puis surtout, on avait volé par effraction, on avait réussi à voler une partie des bobines de Salaud. Hein. Et Salaud lui-même, c'est un testament. Hein. Il met en cause cette liberté absolue du fasciste qui se traduit par le côté sévice, sadique, bon, etc. Mais à mon avis, il se met en cause lui-même une fois de plus.
Poi abbiamo perduto ciò che alcuni chiamano il diverso e che io dico anche il simile. Abbiamo perduto il diverso e il simile. lui stesso diceva di essere diverso. Ma in che senso abbiamo perduto un diverso? Abbiamo perduto un uomo coraggioso, molto più coraggioso di tanti suoi concittadini e coetanei.
On entend la voix de Moravia le jour de l'enterrement de Pasolini à Rome. Et c'est une voix extrêmement véhémente de quelqu'un qui parvient à parler de façon très véhémente à une foule sans pleurer, hein, pour s'empêcher de pleurer finalement, on le voit bien, parce qu'il lui-même a une sorte de rage qui est la rage de Pasolini qui lui est transmise à ce moment-là, plus sa puissance à lui. Et si Moravia peut dire tout ça, c'est parce que
Hervé Joubert Laurencin.
La mort de Pasolini est particulièrement signifiante. C'est-à-dire, il ne pourrait pas le dire si ce n'était pas ça, si ce n'était pas un homosexuel en 1975 qui se fait tuer la nuit. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment, et on en sait de moins en moins finalement. Plus on avance dans les fausses révélations, plus on avance dans les aveux de l'assassin puni acheté par la télévision publique. Enfin, ça devient c'est énorme, ça devient de pire en pire. On va rouvrir le procès, mais on ne le rouvre pas, c'est la puissance publique qui veut le rouvrir, mais qui ne peut pas. Bon, ça, c'est de pire en pire. C'est-à-dire, plus on en ajoute, plus ça s'obscurcit, en quelque sorte. Hein. Et c'est un peu ce qui était prévu dès le début. C'est un événement opaque qui correspond absolument aux années de plomb, puisque c'est le début des années de plomb. Et même si on sait de plus en plus de choses, pas seulement en termes de révélations historiques, mais on a l'épaisseur de l'époque, et donc on comprend un peu les lignes de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, de la mafia, de la loge P2. Bon, si aujourd'hui on en sait beaucoup, beaucoup plus, historiquement, bah on n'en sait rien de plus, mais pas un iota de plus pour Pasolini.
Première version selon Pelozzi, avant ses aveux de 2005.
Moi, ange noir, Pino Pelozzi. Quand j'ai lu Fragment à la mort, j'ai été presque terrifié. Pasolini dit qu'il a obtenu désormais ce qu'il voulait, qu'il avait fait fortune dans l'intellect. Et qu'il sent la mort proche, il se sent dans un état où la mort l'accompagne constamment. Alors que jusque-là, il avait la terreur de mourir, maintenant, pour lui, c'est au contraire une joie, qui se confond avec un type de jouissance, aride et livide, la passion déçue. Et quand je pense en effet comment il est mort, de ma main involontaire, je me sentis secoué. Oui, parce que tout est né de sa passion déçue, du fait que je n'étais pas d'accord pour me faire toucher par derrière, pour me faire enfiler ce pieu. Alors il est devenu furieux à mort, si j'ose dire. Il est devenu un autre. La rage folle l'a bouleversé, il a commencé à me frapper. Et c'est comme ça qu'il est mort, mais moi, je voulais pas.
Pourquoi la thèse du meurtre par Pelosi est remise en question? C'est pas seulement à cause de ses aveux de 2005. Enfin, bon, parce qu'on pourrait imaginer qu'il raconte n'importe quoi. Il y a d'autres indices. Bon, par exemple, nous, on a retrouvé des riverains. Ils nous disent que cette nuit-là, on l'a entendu crier, il appelait sa mère, mais qu'il y avait des bruits de moto. En tout cas, qu'il n'était pas seul. Bon. Deuxièmement, ils disent que cet endroit est un endroit habité par des délinquants, et notamment des repris de justice. Le milieu, mais un milieu très grave, hein, je veux dire le milieu de Rome. Quoi. Pas forcément la mafia sicilienne, mais un milieu qui tient à la fois la prostitution masculine et la prostitution féminine. Et les riverains disent, parmi nous, il y a eu des témoins qui ont commencé par dire « on a entendu plein de bruit ». Et puis après, ils se sont rétractés. Et d'après l'un d'entre eux, qui s'appelle Mattei, il y aurait eu des pressions sur ces témoins. Le milieu aurait fait des pressions. Bon. Il y a ensuite d'autres choses. Il y a la fameuse expertise Durante, dont parle Tullio Giordana dans son livre et dans son film « Mort d'un poète ». Durante, qui est maintenant mort, malheureusement, a montré que la voiture qui lui est passée sur, le corps, c'est pas du tout un trajet aléatoire, comme ça, un trajet dû au hasard. Et,
oui, bon,
il y a eu volonté de l'écraser. Et le gosse, lui, disait, ben non, c'est en faisant machine arrière. Bon, deuxièmement, alors, comment se fait-il que ce garçon qui a, avec une planchette, assommé et massacré littéralement Pasolini au point de le rendre méconnaissable, comment se fait-il quand les carabiniers l'arrêtent sur le front de mer et qu'il est en train de se laver les mains, il n'y a pas une goutte de sang sur ses vêtements? Et d'autre part, il y a maintenant un élément qui fait que Guido Calvi, l'avocat de la famille, Gianni Borgna, l'ancien adjoint au maire de Veltroni de Rome, d'Accia Maraini, enfin tout, il y a un comité qui s'est formé et qui utilise non seulement les, en creux des arguments qui n'ont été écartés par le procès, absurde, hein, je veux dire, il y a vraiment des arguments qu'on ne comprend pas. C'est un procès qui a été complètement bousillé par, et volontairement, systématiquement par les juges. Ils utilisent cela et surtout, ils utilisent un film de Sergio Citti. Sergio Citti, quelques jours après la mort de Pasolini, a enquêté et a tourné avec, en vidéo. Et il est arrivé à la conclusion que le parcours de Pasolini n'est pas vraiment le vrai parcours et qu'il aurait été dans plusieurs endroits. Et sa conclusion, c'est il venait avec Pelosi, qui était son rabatteur, il venait discuter probablement avec des gens du milieu pour récupérer les fameuses bobines. Bon, mais c'est un piège.
L'ultima notte che Pierpaolo che la notte è morto, cioè stavamo insieme a un ristorante.
Ninetto Davoli.
Eravamo io, mia moglie e i miei bambini e stavamo mangiando a un ristorante dal Pomidoro a San Lorenzo.
La nuit où il est mort, on avait dîné tous ensemble au restaurant. Il y avait ma femme, les enfants et Pierpaolo. On mangeait des pâtes. Et il commençait à me dire des choses bizarres. Je me suis souvent demandé ensuite pour quelle raison il me fit ce discours.
Alors, eux, ils insistent sur le fait qu'il y aurait peut-être une collusion entre le milieu et un service secret de l'époque pour mettre cet homme hors de nuire, quoi, je veux dire. Vous savez que, d'après Moravia, il m'a dit, il a signé son arrêt de mort définitivement quelques temps avant 75, avant novembre 75, quand il a écrit un poème qui s'appelle « Je connais les noms ». Je sais qui a fait les attentats de Bologne, qui a fait les attentats du train Italicus, etc. Il a dit, écoutez, il a signé son arrêt de mort, c'est pas possible. Et en plus, il m'avait dit, je suis en train de préparer probablement quelque chose sur le trafic de drogue et qui mettrait en cause la démocratie chrétienne.
Je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et Bologna, 1974. Je sais les noms qui composent le sommet qui a manœuvré aussi bien les vieux fascistes créateurs de Golpe que les néo-fascistes, auteurs matériels des premiers massacres. Je sais les noms de ceux qui ont organisé les deux phases différentes et même opposées de la tension. Une première phase anticommuniste et une seconde phase antifasciste. Je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, des colonels grecs et de la mafia, ont, dans un premier temps, lancé, du reste en se trompant misérablement, une croisade anticommuniste et qui toujours opéraient avec l'aide et sous l'impulsion de la CIA et qui se sont reconstruits une virginité antifasciste. Je sais les noms de ceux qui, entre deux messes, ont donné des instructions et assuré de leur protection politique de vieux généraux, de jeunes néo-fascistes et enfin des criminels ordinaires. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui se trouvent derrière des personnages comiques ou derrière des personnages ternes. Je sais les noms de personnes sérieuses et importantes qui se trouvent derrière les tragiques jeunes gens qui se sont offerts comme tueurs et sicaires. Je sais tous ces noms et je sais tous les faits attentats contre les institutions et massacres dont ils se sont rendus coupables.
Un autore, quando è disinteressato e appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che, insomma, va bene per tutti. Quindi non appena apre bocca un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre.
La fin d'Acatone.
On peut parler de toute l'œuvre de Pasolini à partir du point de sa mort, qui de plus en plus du coup se trouve sacralisé. Et ça, c'est arrivé à plusieurs penseurs, à plusieurs écrivains ou journalistes. Bon, moi, je récuse complètement cette idée, notamment parce que j'ai travaillé sur des textes et sur des brouillons et sur des projets qui sont des choses qui étaient prévues, donc qui étaient en continuation. Et il est évident que l'œuvre de Pasolini, on perçoit qu'elle est arrêtée en plein vol, quoi. Donc, 1975, novembre 1975, anniversaire de la nuit de la Toussaint entre le jour des saints et le jour des morts, tout ça a énormément de sens, mais il y a un trop-plein, quoi. Voilà.
Il y a deux problèmes qui sont essentiels pour lui. Le problème du terrorisme et le problème de la corruption, et qui sont liés. Et au fond, c'est ça l'originalité de Pasolini, c'est de s'être rendu compte que ceux qui apparaissaient comme des marginaux, plutôt sympathiques, de moins en moins sympathiques à partir du moment où ils ont du sang sur les mains, et puis franchement des ennemis, c'est-à-dire les brigades rouges, comment ces marginaux sont en fait manipulés par le gouvernement. On n'a pas d'un côté le gouvernement, de l'autre côté des terroristes, c'est une même société. Et c'est ça que découvre Pétrole, quand on le lit attentivement. C'est-à-dire que ceux qui se sont présentés comme des terroristes hostiles à l'État étaient des instruments et parfois totalement conscients et consentants.
Et je pense qu'en Pasolini, il y a des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, je ne sais pas, tous les écrits romains sur la plèbe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que...
Tony Negri.
Il a réussi à toucher vraiment ceux qui étaient des marginaux. Des immigrés de l'Italie du Sud, normalement, non, qui s'étaient arrêtés dans les grands banlieues romaines, des banlieues dans lesquelles j'ai travaillé aussi, et c'était des lieux de borgate, c'était des lieux de misère et d'une violence extrême, comme toujours, c'était comme on peut parler aujourd'hui, je ne sais pas, des favelas, des Rio, des grands lieux dans Chine ou en Inde, non, comme ça, c'était vraiment quelque chose de terrible. Et dans laquelle Pasolini a vraiment, il a pris cette il a interprété la racaille. La plèbe violente, le lumpen, jusqu'au fond. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement dehors de la culture marxiste. Alors, et il faut faire attention, parce que c'est bien vrai que cette populace, à nouveau, non, je continue à utiliser des termes qui sont odieux, non, plèbe, populace, bouge, et tout ça, non, si vous voulez, tout ça était quelque chose qui était complètement dehors de l'organisation des luttes.
Reggele bene,
va piano, oh, va piano, dovessimo far botto, va piano. Ettore, come cori?
Mamma Roma.
Avorto bene, che c'è paura?
No,
Però va piano, va. E non c'è paura, stringa dai fianchi, qua metti le mani.
Le rapport que Pasolini a eu dans une première phase avec ces gens était un rapport dans lequel justement une certaine idée assez ancienne du peuple, peut-être réactionnaire, et c'était de ça qu'il accusait Alberto Sorrosa. Vous pouvez lire son bouquin, il s'appelle « Scrittori e popolo », écrivant un peuple, qui était un livre qui a fait école en Italie, voilà, pour ainsi dire, était très important. Et cet rapport, cette sympathie pasolinienne pour ces couches de la population, était quelque chose qui était... Je ne pense pas que c'était prophétique, et donc, de ce point de vue, qui pouvait se lier au concept des multitudes, voilà. C'était quelque chose qui était lié en pitié humaine et à quoi ? Et à une certaine perversité positive, dirais-je, dans Pasolini.
Et un désir
presque nihiliste, d'un certain point de vue, mais qui se couvrait des passions. C'était un érotisme fondamental. Voilà. C'était ça, chez Pasolini. Et c'était quelque chose d'extrêmement beau et puissant. Hein. Mais d'un point de vue politique, c'était quelque chose qu'il fallait prendre avec beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de prudence. Voilà. En plus, ce sont ces mêmes gens qui viennent au Nord et deviennent classe ouvrière, immédiatement après. Et c'est ça que Pasolini ne comprend pas. C'est-à-dire son exaltation, non ? Pour ces gens, non, retrouvés dans les borgates romaines. Quand ils arrivent à Turin, je vous assure que c'était quelque chose d'inimaginable ce qu'était l'immigration interne de Turin. C'est transformé, c'était une ville de 300 000 personnes, elle est devenue 1,5 million dans 5 ans. Quand on descendait à Porta Nuova, à la gare, De Turin dans les dernières années 50, on traversait les corps. Non, mais c'était une gare énorme.
C'était Calcutta, quoi.
C'était inimaginable. Vous avez vu peut-être le film de Visconti, Rocco et tout ça, mais ils sont tous des index de ce qui était la situation réelle. C'était vraiment une transformation ethnique, voilà, profonde, beaucoup plus violente de tout ce que j'ai vu en tant qu'immigration.
Il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente.
Le pouvoir de la société de consommation démocratique actuelle obtient parfaitement l'acculturation, l'homologation que le régime fasciste n'a pas réussi à obtenir en détruisant les particularismes, en déréalisant les formes variées de l'humanité que l'Italie a produites de manière très différenciée.
E allora questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.
On peut donc dire que le vrai fascisme est ce pouvoir de la société de consommation qui est en train de détruire l'Italie. Et ce phénomène a eu lieu si rapidement che nous ne nous en sommes pas rendu compte. Au cours de ces 10 dernières années, s'est produit cette espèce de cauchemar qui a vu la destruction de l'Italie. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire.
L'homologation, ce n'est pas 1984, ce n'est pas le retour du grand Staline, ce n'est pas simplement ça, c'est la banalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se déplacer en réalité. C'est, comme d'ailleurs l'a connu Pasolini à la fin de sa vie, l'impossibilité de se déplacer, de déplacer les lignes idéologiques et donc de retrouver uniquement une parole inutile d'une certaine manière, puisqu'à la fin, on peut dire que sa poésie était de moins en moins lue.
Bertrand Levergeois.
Et donc une espèce de repli explosif, comme le montre la démarche de la composition de Petrolio, une espèce de repli explosif où la nuit doit faire surgir la vérité. Malheureusement pour Pasolini, la nuit, elle a fait surgir sa disparition.
Il faut voir quand même que l'intelligentsia française s'est limitée à la connaissance d'un Pasolini dramatisé par le biais de Laura Betti. On l'a connu à travers Laura Betti, hein, nous tous. Et donc, c'est un Pasolini, justement, École de Francfort, justement, pour les Français, c'est celui-là et que celui-là. Moi, je pense que c'est plus... C'est pas le seul, quoi, c'est tout. Hein. Ça veut pas dire qu'il est faux, hein. Au contraire, c'est effectivement le dernier Pasolini. C'est le dernier Pasolini qui a développé cette question qui amène alors à la réalisation de Salo. Et effectivement, si il avait continué et si on avait vu au cinéma, par exemple, Porno Théo Colossal, hein, qui est... Le scénario qui est publié en italien, mais qui n'est pas publié en français, bon, c'est un texte tout à fait extraordinaire. Hein. Bon, il n'est pas le seul, mais c'est quand même un texte qu'il a écrit lui-même ou qu'il a dicté au dictaphone et qui est un scénario complet de long métrage tout à fait hallucinant. La lecture faisait 2h30. Hein.
Gomorre est l'utopie de la cité de la violence, néo-capitaliste. Les jeunes, nus, déferlent dans les rues, envahissent les places au hasard, trouvent des femmes, les violentes, les violents où elles se trouvent, au milieu de la rue, dans leur propre maison ou sous les yeux de leurs enfants. Puis ils ressortent, dévalisent les magasins d'armes, prennent les banques d'assaut, s'emparent de l'argent, entrent dans les supermarchés, les saccagent, les pillent. Ils ressortent, mais ils ne sont plus nus, ils se sont habillés à la dernière mode. Et ils continuent leur chambard dans la ville, dans ce nouveau costume. La séquence est très touffue et ressemble et rassemble tout ce que les jeunes de la nouvelle génération font couramment. Elle représente symboliquement et systématiquement leur vrai quotidien. Angoisse, aveuglement, méchanceté, névrose, présomption, violence, conformisme, haine. C'est de tout cela qu'est constitué le raptus qui les entraîne à dévaster la ville et à les en rendre les maîtres. Et peu importe si le regard qui les observe est celui d'Epifanio, d'Eduardo et Epifanio, un regard comique, leur atterrante réalité est toujours là. Quand cette armée de jeunes est parvenue au sommet de sa violence barbare, non dénuée, cependant, d'une certaine délicatesse consommatrice moderne, le présentateur de la télévision, nous serons entrés dans son écran et de là nous aurons tout vu objectivement, annonce que la fête s'achèvera par l'exécution capitale de deux personnes qui ont enfreint les règles de Gomorre, à savoir qui ont été souillées par l'épouvantable, innommable faute du rapport homosexuel. Cette exécution capitale se déroulera sur la place du Dôme. À cette annonce, Eduardo et Ninetto tournent le dos à la télévision et courent se coller le nez aux vitres de la fenêtre.
Bon, bah ça, par exemple, bien sûr que ça a un rapport avec Salo, ça ressemble à Salo pour une part, puisque ça s'appelle Porno, ça s'appelle Colossal, donc... Ça ressemble à Salo aussi, parce que Salo est un film colossal, ce n'est pas un colossal. Un colossal, ça veut dire un film à grand spectacle en italien, hein, un péplum. Bon. Donc Salo est en quelque sorte un péplum, hein, un péplum de cul, c'est sûr, mais un péplum sadien, mais quand même un péplum, parce que c'est une énorme production, coproduction internationale énorme, comme les quatre derniers films qu'il a fait, hein, qui étaient des énormes films presque hollywoodiens, enfin, en tout cas pour l'Italie, c'était des très 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 gros budgets. Donc il y a cette partie-là, mais c'est aussi un film tiré de la Bible en quelque sorte, hein, théologique, donc porno théo colossal. Il a les trois choses, il n'a pas que l'aspect Salo, quoi. Voilà, donc ça veut dire que Salo n'est pas une fin en soi, hein. Là on retombe sur le problème, voilà, il n'est pas testamentaire, c'est pas un point d'arrêt, un mur avec rien pour aller après. Pasolini a toujours été comme ça, et pas seulement ce pessimisme noir, hein, puisque bon, c'est ça le dernier Pasolini.
Thank you. Malheureusement, comme toujours, les légendes s'embellissent. Donc, je n'ai pas rencontré Pasolini parce qu'il m'a cherché, il ne m'a pas trouvé.
Anne,
donc,
Wiazemski.
J'ai eu Armedia, enfin l'agence Les Bovici à l'époque, qui m'a appelé en disant « Il vient de passer 24 heures à Paris, il vous a cherché, il souhaite que vous vous rendiez disponible pour tourner un film qui s'appelait La Comète ». Et tout ce que je savais, c'est que j'étais dans un épisode qui était Paris, au Moyen-Âge, et avec Laurent Terzieff. Par ailleurs, c'est vrai qu'on n'a jamais rompu les liens, comme on dit. Donc on s'écrivait, et dans une lettre, il me disait, parce que j'étais un peu pas contente de pas tourner dans tous les autres d'avant, il m'expliquait très gentiment que... il n'y avait que des Arabes, enfin que j'étais pas arabe, enfin, c'est des choses que Salouy ne voulait pas que je sois dedans. Mais il m'avait dit, ne vous inquiétez pas, on va vieillir ensemble. Pour l'avoir accompagné dans une fac de droit, où des étudiants l'avaient invité, et où les étudiants de droite étaient là aussi, ça j'ai vu la haine... Et j'étais là, je faisais partie de sa garde. Enfin, ça le faisait rire d'ailleurs, parce qu'il me disait « Mais tu crois que tu sors me défendre ?» Mais là, vraiment, de façon... ça me donne encore des frissons d'avoir senti plus les injures, Oui, c'était très, très, très violent dans cette fac. Il dégageait aussi d'une violence qui faisait peur. Quand on est allé à la fac, dans cette fac... lui entouré des garçons et plus moi, et qu'on avait le sentiment que les autres voulaient, les extrêmes droites voulaient en découdre, il me faisait aussi peur, lui. On avait le sentiment qu'il pouvait y aller à point nu et tuer la personne en face aussi.
Il y a quelque chose qui, pour lui, était porteur d'espoir. Dans la mesure où, tout d'un coup, il voyait les guerres d'indépendance... qui étaient des guerres paysannes, et non pas des guerres ouvrières, réussir. Et puis tout d'un coup, avec les années 60, il s'est aperçu que ce lumpenprolétariat, notamment les jeunes, subissait ce qu'il appelait la mutation anthropologique de l'Italie, c'est-à-dire, dont on a parlé, une sorte d'homologation dans le désir de...
d'intégration dans le
voilà, d'intégration à tout point de vue, à travers la consommation.
Le devenir violent de Pasolini était également porté dans Théorème. Quand même, Théorème, il y a Massimo Girotti, le père, est un directeur d'usine où on voit que tout est sur le point d'exploser. Hein. Donc tout ça était, pour moi, disons, attendu. Là où j'étais complètement déconcerté, je ne peux pas le cacher, c'est Salò.
J'abjure la trilogie divine de la vie, bien que je ne regrette pas de l'avoir faite. Car je ne peux pas nier la sincérité et la nécessité qui m'ont poussé à représenter les corps et leur symbole principal, le sexe. Maintenant, tout est complètement inversé. Premièrement, la lutte progressiste pour la démocratisation de l'expression et pour la libération sexuelle a été brutalement dépassée et rendue vaine par la décision du pouvoir consumériste d'accorder une tolérance aussi large que fausse. Deuxièmement, la réalité des corps innocents a été elle-même violée, manipulée, dénaturée par le pouvoir consumériste. Bien plus, cette violence sur les corps est devenue la donnée la plus macroscopique de la nouvelle époque humaine. Troisièmement, les vies sexuelles privées, comme la mienne, ont subi le traumatisme aussi bien de la fausse tolérance que de la dégradation corporelle, et ce qui, dans les fantasmes sexuels, était douleur et joie, est devenu déception suicidaire, inertie informe. Lettre luthérienne, 1973.
à propos de Salaud et de cette sorte de virevolte, si l'on peut dire, qu'il a appelé une répudiation, qui fait que tout à coup, après avoir encensé les corps dans Les Mille et Une Nuits, dans toute cette trilogie de la vie, il se retourne, il les considère comme étant voués à une malédiction. Dans Saint-Paul aussi, il y a c'est un peu cet aspect, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que le corps, à un certain moment, dans le gnosticisme, est dénigré, il n'est plus porteur de salut, au fond. C'est ça. Dans Pétrole, c'est très net, ça, au moment où il a écrit cet ensemble qui s'appelle Vision. On voit bien que l'aspect intentionnellement mystique de Pasolini, visionnaire, puisqu'il donne des visions dans des coupes dans le monde moderne, où il montre cette jeunesse qui, prise dans la société de consommation, emportée par ce mouvement, sans l'aidi, devient quelque sorte qui, en dépit de sa jeunesse, c'est-à-dire de cet arrière-fond de beauté qu'elle conserve, devient un objet repoussant.
Dis-toi que moi aussi, je forniquerais volontiers avec ma commère. Et c'est pas elle qui refuserait. Mais voilà, j'ose pas. Je pense à ce qui m'attend, au salut de mon âme. Pour qu'à ma mort, elle se présente à Dieu, sans péché.
Le Décaméron.
Pétrole est une chose très extraordinaire dans l'œuvre de Pasolini et dans sa vie, mais c'est très extraordinaire dans l'histoire de la littérature. Alors donc du coup c'est un truc énorme parce que c'est un roman inachevé parmi les trois ou quatre grands romans du XXe siècle inachevés déjà. Par ailleurs, ça représente totalement l'œuvre de Pasolini parce que c'est intégralement transgenre. Donc ça dépasse tout à fait le genre littérature, cinéma, dessin, critique politique, critique journalistique, critique d'art, autobiographie. Voilà, il s'est fait photographier nu et ça devait apparaître à l'intérieur du livre. Donc comme il l'a plus ou moins dit, c'est un chaudron. Hein, c'est un chaudron dans lequel toute l'œuvre vient bouillonner, vient ressortir. Mais l'œuvre, ça ne veut pas dire grand-chose du coup. C'est la société elle-même, c'est les savoirs. C'est-à-dire, c'est comme Salaud. C'est comme l'une des meilleures définitions de Salaud que j'ai entendue d'Hélène Surgère, hein, qui est dans le film et qui donc la tient de discussion avec Pasolini. Elle disait que c'était, selon lui, un film hyper culturel, en quelque sorte, pour le terrorisme culturel, qui représentait le terrorisme culturel, hein, pour désespérer les hommes par la culture.
Le fait d'observer, comme nous le faisons, avec tout autant de passion que d'apathie, Guido et la Vaccari, masturbant ces deux corps qui sont notre propriété, m'amène à toute une série de réflexions intéressantes.
Ayez donc la bonté de nous en faire part, cher Duc.
Salaud, ou les 120 journées de Sodome.
Nous autres fascistes sommes les seuls véritables anarchistes, une fois que nous nous sommes emparés de l'État, bien sûr. En fait, la seule véritable anarchie est celle du pouvoir. Cependant, regardez ici. La gesticulation obscène est un langage de sourd-muet, avec son code. Aucun d'entre nous, malgré son libre arbitre sans limite, ne peut transgresser. Il n'y a rien à faire. Notre choix n'est que structure. Nous devons subordonner notre jouissance à un geste unique. Klossowski.
Son cinéma le gêne parce que c'était un cinéma qui avait fini par devenir consensuel. Parce que c'est le cinéma des années 70 qui a une force, un impact mondial très grand, et pas uniquement en Italie. Et il est gêné parce qu'il a l'impression que ce qu'il pensait comme provoquant est partagé par trop de monde. Et donc ce n'est plus une provocation, ça devient une sorte de néo-académisme sexuel et politique, d'où l'abjuration dont vous avez parlé, et sa tentative avec Salaud. Cette dernière période de sa vie est d'une accélération, d'une rapidité incroyable, contrôlée et incontrôlée, en partie parce qu'il voulait dépasser ses ennemis, il voulait aller plus vite, il avait une pensée qui, au fond, que, que personne ne suivait. Peut-être Moravia, c'est peut-être le seul qui a été à sa hauteur intellectuelle et assez intime pour le suivre malgré des désaccords.
La censure, c'est une forme de violation des plus élémentaires droits, le droit de la liberté d'expression.
1976, première présentation de Salo à Paris.
Mais le fait que le film de Pier Paolo de Pasolini a été renvoyé, interdit par la censure,
Bernardo Bertolucci.
Peut-être quelque chose encore en plus. C'est le dernier acte, ou peut-être pas le dernier acte, parce qu'il y en aura d'autres sur ces œuvres, d'un lynchage qui a commencé il y a beaucoup de temps et qui s'est terminé un séjour après la mort de Pier Paolo. Un lynchage qui, d'abord, était un lynchage fait par une élite, des magistrats, des censeurs et comme ça. Et il y a eu le tentative de le transformer dans un lynchage de masse. Et complice de tout ça a été la télévision italienne qui a donné, le soir même de la mort de Pier Paolo, une version qui était une version qui orientait millions et millions de spectateurs vers un fait divers.
Comment croyez-vous que le public peut accepter ce film ?
Oh, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du distributeur et du producteur. Pour moi, le public, c'est toujours très intelligent, très cultivé et comprend tout. Pour moi, je ne peux pas penser que le public ne comprend pas.
Signore e signori, è con grande piacere che vi presentiamo un ospite davvero speciale, Morrissey.
C'était Pier Paolo Pasolini, Le procès interdit. Une émission de Yann Ciré, réalisée par Angélique Thibault. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Anne-Vanessa Prévost. Hostie, le corps du massacre. Ordure et blasphème. Pasolini is me. I could Tony you be. I entered nothing and nothing entered me till you came with the key. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for? Avec Anne Jasemski, Tony Negri, Jean Duflo, Hervé Joubert-Laurencin, Bertrand Levergeois, René de Secati, Jean-Paul Manganaro, René Scherrer. Avec les voix de Pier Paolo Pasolini, Laurent Terzieff, Alberto Moravia, Leonardo Sciascia, Bernardo Bertolucci, Sergio Citti, Pierre Clementi, Walter Citti, Sergei Parajanov, Franco Citti, Ninetto Davoli, Vino Pelozzi. Lecture Nicole Doguet, Damien Manivelle, Jean-René Lemoine. Porno Théo Colossal, scénario posthume de Pasolini, lecture Jeanne Moreau, traduction Hervé Joubert-Laurencin. Remerciements, Lisa Narboni et le festival Premier Plan d'Angers. Musique, Ostia, The Death of Pasolini, de Cole. Morrissey, You Have Killed Me. Les mauvais garçons sur le champ, Pasolini, Anna Prucnal. Maria Callas, Aria Finale, de Manon Lescaut. Demain, deuxième partie, Pasolini, le sacrifié de la société.